que tu peux saluer ton voisin et ta voisine. Demande-lui comment la journée a été, comment la semaine a été. Demande-lui est-ce qu'il a retrouvé la ration pour les enfants si c'est un parent. Et si c'est un enfant, demande-lui est-ce qu'il a bien mangé. Je suis dans la joie du Seigneur d'être avec vous. Jour pour jour, nous ne cessons de parler de la part de Dieu et de vous donner ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Aujourd'hui, je nous invite à lire deux portions des Écritures. La première se trouve dans Genèse chapitre 49. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. Et la deuxième, c'est Galates chapitre 6. Et là, nous ne lirons que le verset 7. Je répète, Genèse 49, verset 1er à 4, puis Galates 6, verset 7. Jacob appela ses fils et dit, « Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Un petit ouet comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. » Galates chapitre 6, c'est un passage que plusieurs connaissent. Certainement qu'on nous prêche quand il faut donner les offrandes. C'est un passage qui concerne toute la vie de l'homme. Paul avertit l'église des Galates et il dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je répète. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, avant même que je ne puisse expliciter ces deux passages que nous avons lus, j'aimerais dire deux grandes vérités. La première vérité que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'il y a des gestes, lorsque nous les posons, toute notre vie change. Je dis ceci, il y a de ces actes, si tu les poses aujourd'hui, toute ta vie change. Il y a des actes qui sauvent, il y a des actes qui changent la vie d'un homme. Il n'y a pas longtemps, un immigrant sans papier en France, il passe et il voit un enfant en danger. Lui-même dira plus tard qu'il ne savait pas ce qu'il lui a appris, alors que tout le monde était en train de prendre des photos. Il s'est décidé d'aller sauver cet enfant. Mais il ne savait pas que cet acte qu'il posait lui donnerait la nationalité. Et non seulement la nationalité, lui ferait rencontrer les présidents de la France. Vous avez suivi ça sur les médias. Il est devenu plus célèbre. Il a même eu un travail, lui qui n'avait pas de papiers. Non seulement qu'il a un il a la nationalité, mais en plus de cela, il raconte les présidents. Et plus que ça, il est devenu pompier en France. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte. Dis à ton voisin, pose un acte. Frères et sœurs, il y a des actes, quand vous les posez, toute votre vie change. J'aime souvent parler de ce qui m'est arrivé. En 2006, mes parents décident que je vienne à Goma pour étudier parce qu'à cette époque-là, à l'Unigom, les frais scolaires étaient à $80. Et ma famille a décidé que je vienne à Goma. Frères et sœurs, je peux vous dire la vérité, lorsque je suis arrivé à Goma, si ma famille m'avait envoyé beaucoup, c'était $50. Donc, ils ont été même incapables de prendre en charge une année entière. Mais je n'oublierai jamais. Alors que j'arrive ici, j'avais un ministère que j'exerçais. Et mon ministère était chaque matin de prendre une parole, des écritures, d'envoyer une parole d'encouragement par SMS. Et je le faisais très bien. Chaque fois que je me réveillais, j'envoyais à tout mon répertoire un message. Jésus vous aime. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et un bon jour, j'ai oublié. J'ai changé de numéro. Au lieu d'envoyer à la personne que je voulais envoyer, c'est arrivé à un téléphone de quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand j'ai envoyé les messages, la personne m'a appelé et m'a demandé « Est-ce que tu me connais ?» Je dis « Je ne te connais pas. »
Il me dit, mais tu viens de m'envoyer un message. J'ai dit, je m'excuse, ce n'est pas votre message, je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre. Il va me dire, non, ça c'est mon message, voici ce que je traverse, voici ce que je vis. C'est à moi ce message. Mais il va faire une erreur, il va me dire, si tu peux m'envoyer un autre message. Frères et sœurs, je prie toujours que Dieu me donne un message pour envoyer à quelqu'un parce qu'on ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Le lendemain, je lui ai envoyé un autre texto. Et quand je lui ai envoyé un texto, c'était un problème qu'il n'avait jamais dit à qui que ce soit. Il s'est dit, cette personne doit me connaître. Il a pris le téléphone, il m'a dit, monsieur, soyons sérieux, est-ce que tu connais ma vie? Comment tu peux dire des choses que je n'ai jamais dit à qui que ce soit? C'est alors que j'ai senti dans mon cœur lui poser une question. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Il me dira, mais je ne comprends pas. Ça fait 3 pasteurs qui sont en train de passer matin, midi, soir pour me parler de Jésus. Je ne veux pas ce Jésus-là. Je lui ai dit, si tu ne veux pas de Jésus, Dieu va susciter, même tes avis vont commencer à te parler de Jésus. Je lui ai dit, tu es obligé aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur. Et il a donné sa vie au Seigneur et on a commencé à correspondre jusqu'à ce que j'arrive à Goma. Et quand j'arrive à Goma, cet homme aussi arrive en mission de service. Il était pilote et le premier jour qu'il m'a vu, je n'oublierai jamais, il m'appelle à l'aéroport de Goma. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Quand j'arrive à l'aéroport de Goma, il m'accueille, il me donne un secret. Et puis avant de vouloir qu'on se sépare, il dit, j'avais fait un vœu à Dieu, que le jour où je te rencontrerai, je te donnerai tout ce que tu veux. Alors je te laisse toute une journée. Va réfléchir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Frères et sœurs, il y a des questions difficiles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et puis, il ne s'est pas arrêté par là, il dit, non seulement que j'ai l'argent, mais je suis prêt de te donner tout ce que tu vas me demander. Il a enlevé dans sa poche un billet de $100. Il m'a dit, ça c'est juste les transports pour que tu rentres à la maison et que le soir tu viennes me voir. Frères et sœurs, quand je regardais, j'ai dit $100. Est-ce que je peux prendre la moto, les taxis ou quoi? Et toute la journée a été troublée parce que je me demandais, si je lui demande beaucoup d'argent, il risque de croire que j'aime l'argent. Si je demande peu, je risque de rater l'occasion de ma vie. Je n'oublierai jamais les soirs quand on s'est vu. J'ai vu les heures passer vite. Il m'a demandé, est-ce que tu as réfléchi? J'ai dit, oui, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, quand tu veux me faire quelque chose et que c'est un cadeau, donne-moi ce que ton cœur désire. Alors il a commencé à me poser la question. J'avais presque déjà abandonné les études parce que pour moi, je savais, je ne suis pas fait aux études. J'étais à cette époque-là en G3. Je ne partais plus à l'université. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu. Je suis appelé à servir Dieu. Est-ce que tu as étudié? Je lui ai dit, oui, j'ai abandonné mes études parce que mes parents sont incapables de me prendre en charge. C'est alors qu'il a dit, la meilleure des choses que je peux faire pour toi, c'est de payer des études. Frères et sœurs, ces frères, non seulement qu'ils payaient mes études, mais chaque semaine, ils me faisaient $100. Si vous faites les calculs, dans un mois, j'avais combien? $400. En dehors de ces $400, ils payaient pour moi une maison. J'étais devenu un petit bourgeois, étudiant, mais sans problème. Pourquoi? Parce que j'avais envoyé un SMS seulement à quelqu'un. Un SMS qui a sauvé et changé toute la vie. Frères et sœurs, je prie que Dieu nous aide à poser des actes qui vont sauver notre vie. Que Dieu nous aide à poser des actes qui vont changer notre parcours. Je me demande si je n'aurais pas dû lui envoyer cet SMS. Qu'est-ce que j'allais un jour terminer mes études? Un seul SMS a fait que je termine mes études. Un seul SMS a fait que je puisse étudier de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que j'ai posé juste un geste. Dis à ton voisin, pose un geste. Si un geste peut sauver notre vie, la deuxième vérité que j'aimerais vous dire, qui est importante aussi, c'est qu'il y a de ces gestes, vous les posez une seule fois, et toute votre vie est gâchée. Il y a de ces choses, ces actes, vous les posez une seule fois et vous regrettez toute votre vie. Que des actes qu'on n'aurait dit pas poser, que des choses qu'on n'aurait dit pas faire, que des familles qui sont en souffrance parce que papa, parce que maman a posé un mauvais acte et qui a eu des répercussions, des conséquences sur la vie des enfants. Je n'oublierai jamais ce coup de fil. Un jeune homme de 26 ans, habitant à Nairobi, au Kenya, m'appelle en 2006. Et lorsqu'il m'a appelé, il pleurait comme un enfant. Et le seul mot qu'il disait, c'était la première fois et la dernière fois. Je lui dis, la première fois et la dernière fois, ça veut dire quoi? Oh, Benjamin, crois-moi, c'était l'unique et la seule fois. Je lui dis, ça veut dire quoi? À 26 ans, il était déjà licencié. À 26 ans, dans un pays étranger, il avait déjà un bon travail. Il a commencé à me relater ce qui s'est passé. Alors qu'un jour, il était assis avec ses collègues de service. Ils vont lui poser la question, as-tu déjà connu des femmes? Il dira, je suis chrétien, je n'ai jamais connu des femmes. Ils l'ont regardé, ils ont dit, tu es Yuma, à ton âge. Tu as un bon travail, tu es beau, et puis tu ne connais pas des femmes. Et lui, il a dit, je vais le prouver. Aide-moi à dire à ton voisin, n'essaie jamais de prouver aux gens. Peu importe ce que tu peux faire pour prouver aux hommes, ils finissent toujours par te critiquer. Il a loué une chambre. Il a pris une femme. Ils sont allés, la seule et l'unique fois. Et puis ce jour-là, en sortant, il a appelé, il a dit, je l'ai fait. Et tout le monde l'a appelé, ils lui ont dit, tu deviens maintenant un homme. Quelques temps plus tard, un bouton commença à pousser sur sa peau. Puis il commença à avoir la fièvre. Il est parti, il a soigné tout, et alors tout. Et on ne trouvait aucune maladie. Jusqu'à ce que le médecin a proposé ce qu'on peut faire, les tests de VIH, SIDA. Et quand on a fait ces tests, il était positif. Et c'est ce jour-là qu'il m'appelle, il me dit, c'était la seule et l'unique fois. Si ce message est annoncé aujourd'hui, c'est pour prévenir quelqu'un, lui dire qu'un seul acte de ta vie peut sauver toute ta vie. Mais un seul acte peut gâcher et détruire ta vie. Et ma prière ce soir, et que Dieu nous aide à poser des actes qui vont sauver nos vies. Que Dieu nous aide à ne pas poser des actes que nous regretterons plus tard. Des actes dont on se demandera pourquoi je l'ai fait. En français, on a l'habitude de dire, si je savais, vient toujours tard. Je prie que le si je savais ne sorte jamais de nos bouches. Je prie que quelqu'un, par ce message, ce soir, prenne l'engagement d'être conséquent de ses actes. Écoutez, Église, un homme responsable, c'est celui qui sait assumer les conséquences de ses actes. Dans Genèse 49, les passages que nous avons lus au début, c'est l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Jacob. Jacob est avancé en âge. Les commentateurs de la Bible disent qu'à cet âge, il ne voyait presque plus. Et il est certain qu'il était déjà gravement malade. Il est sûr et certain qu'il va bientôt mourir. Il est sûr et certain qu'il a fini sa course. Il est sûr et certain qu'il n'a plus de choses à faire sur la terre. Regarde ce que Jacob va faire avant de mourir. Il se décide de faire des choses. La première des choses, il se décide de bénir ses enfants. Il veut prononcer des paroles de bénédiction à chacun de ses enfants. Mais il ne veut pas s'arrêter par là, la Bible dit. Il veut annoncer à ses enfants les choses qui leur arriveront dans la suite des temps. C'est-à-dire, premièrement, bénir ses enfants, mais l'aider, il veut prophétiser sur la vie de chacun de ses enfants. Jacob est un père responsable. Il ne veut pas qu'après sa mort, que ses enfants puissent tâtonner, que ses enfants puissent souffrir. Il veut, avant même de mourir, qu'ils puissent le bénir. Et ce soir, je suis venu parler à un père, à une mère de famille. La spiritualité n'exclut pas de préparer l'héritage à vos enfants. Je dis ceci, la spiritualité n'exclut pas de préparer l'héritage pour vos enfants. Aidez-moi à poser la question à un père ou à une mère à côté de toi. Demande-lui, si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas léguer à ta descendance? Des fois, nous sommes tellement spirituels. Oh non, nous irons au ciel, frère. Si tu es père, si tu es mère, tu as la responsabilité de léguer à tes enfants un héritage. Même si vous ne dites pas amen, je vous prêche la parole de Dieu. Parce que vous prêchez la parole de Dieu, ce n'est pas seulement aller au ciel, mais c'est aussi vous dire, père, préparez l'héritage pour vos enfants. Mère, préparez l'héritage pour vos enfants. Que les parents, s'ils mouraient aujourd'hui, les enfants vont hériter des problèmes, des dettes, des difficultés. Que les parents, s'ils mouraient aujourd'hui, leurs enfants seront des enfants de la rue. Mais ce soir, la parole de Dieu vient t'inviter à préparer l'héritage pour ta descendance. Aide-moi à dire à un père à côté de toi, à une mère, prépare l'héritage pour tes enfants. Et si c'est ton père, dis-lui, papa, prépare-moi l'héritage. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 14, la dernière partie, et ça j'aime. Une des choses que les parents oublient aujourd'hui. Il affirme ceci, il dit, ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser à leurs parents des richesses, mais c'est pour les parents d'amasser au coffre de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons un problème dans notre communauté. C'est que vous verrez des pères qui disent, je mets au monde des enfants, qui sait que l'âme sauvera. Mais la Bible dit, ce n'est pas aux enfants de te sauver, c'est à toi, à ta que parents, de préparer l'héritage pour tes enfants. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La parole Alfred Quinn dit mieux. Il dit finalement, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, ce sont les parents qui doivent économiser pour leurs enfants. Où sont les pères responsables? Où sont des mères responsables qui savent préparer l'héritage de leurs enfants? Nous sommes devenus très spirituels qu'on oublie l'essentiel. Chers parents, je suis venu vous prêcher l'évangile de Christ ce soir. Préparez l'héritage de vos enfants. Ne léguez pas des problèmes à vos enfants. Ne léguez pas des difficultés à vos enfants. Si un parent est là, est-ce qu'il peut me donner un bon amen? Les parents, vous êtes là? Vous êtes choqués? Ah! Si vous êtes parents, sachez qu'un jour, le Seigneur vous demandera, qu'avez-vous fait de ces enfants? Les avez-vous laissés ou légués des problèmes? Ou les avez-vous légués la solution? Un des meilleurs héritages que nous pouvons donner à nos enfants, c'est de connaître le Seigneur. Le meilleur héritage par excellence qu'un père, une mère peut léguer à ses enfants, c'est de faire quoi? Connaître le Seigneur. Jacob, responsable qu'il était, Il s'est dit, je ne vais pas mourir et laisser mes enfants comme ça. Je vais faire des choses, bénir mes enfants, mais je ne vais pas m'arrêter par là. Je vais leur raconter des choses qui leur arriveront dans la suite d'étapes. Avec le peu de temps que je suis dans le ministère, j'ai remarqué deux choses que les gens aiment. La première des choses que les gens aiment, c'est la bénédiction. Qui n'aime pas la bénédiction ici? Qui aime la bénédiction? Même moi, les prédicateurs qui vous prêchent, j'aime la bénédiction. Voilà pourquoi lorsqu'on est dans l'église, si quelqu'un vient dire, vous serez bénis ce jour-là, il y a amen. Vous allez prospérer, amen. Vous allez faire ceci, amen. Les gens aiment la bénédiction. Et la deuxième des choses que les gens désirent encore plus, c'est la prophétie. Tout le monde désire connaître ce qui lui arrivera à la seconde. Qui n'aimerait pas savoir ce qui peut lui arriver dans 2 minutes? Tout le monde veut savoir. Et j'aime souvent le dire, si je viens ici habillé en blanc, chaussures blanches, pantalons blancs, chemise blanche, et avec des gants blancs, et que j'ai commencé à prophétiser, tout le monde me donnera l'argent ici. Mais lorsque je viens vous dire, donnez vos vies à Christ, personne ne te donne l'argent. Et le plus souvent, on pense qu'effort spirituellement, l'homme qui vous montre des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, même le diable peut voir les choses. Est-ce que vous le savez? La Bible dit un jour, alors que Paul est en train de prêcher l'évangile. Il y a une femme qui avait l'esprit de Pluton, capable de deviner, de voir des choses. Alors que Paul passait, elle a donné un message clair et précis. Elle dit, voilà les hommes de Dieu, écoutez-les. Mais j'aime, Paul avait l'esprit de discernement. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ont l'esprit de discernement, qui peuvent comprendre que cette prophétie ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Paul a compris alors que tout le monde savait que c'était vrai. Lui, il a compris que c'est un esprit de divination. J'aimerais dire à l'église, je ne suis pas contre la prophétie, mais la meilleure prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Ne venez pas nous intimider avec une prophétie. Si tu veux nous intimider avec une prophétie, annonce-nous la parole de Dieu, parce qu'elle reste, elle s'hésite à jamais. La seule chose qui ne changera jamais, c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Et Jacob veut faire ces deux choses, bénir ses enfants, mais aussi prophétiser sur la vie de chacun d'entre eux. Et remarquez avec moi, Jacob avait combien d'enfants? Hein? Il en avait combien? Non, les fils. Jacob avait combien? 12. Et chacun des enfants représentait quoi? Une tribu. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que Jacob bénissait un enfant, non seulement qu'il bénissait cet enfant-là, mais il bénissait aussi sa descendance. Chaque fois que Jacob prophétisait sur un enfant, non seulement qu'il prophétisait sur cet enfant-là, mais il prophétisait aussi sur sa descendance. J'aimerais que vous puissiez imaginer la scène de Genèse 49. Lorsqu'un enfant s'est présenté devant Jacob, Jacob ne voyait pas seulement cet enfant-là, mais il voyait aussi sa descendance. C'est-à-dire quoi? Cet enfant était pour Jacob comme étant une représentation ou une porte par rapport à sa descendance. Et mon message de ce soir, je l'ai intitulé « La porte des rebelles ». Dis à ton voisin « La porte des rebelles ». On ne saura pas parler de toutes les portes. Elles sont 12. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de la porte des rebelles. Ensemble, nous verrons qui est rebelle. De deux, quel genre de porte était-il? Une porte de bénédiction ou une porte de malédiction? À ceux qui notent, Notez ceci, Ruben, premièrement, il était le fils aîné de sa famille. La toute première naissance de Jacob, c'était Ruben. Et lorsque je parle du fils aîné en Israël, vous devez comprendre trois choses. C'est que premièrement, le fils aîné en Israël, il était spécial. Dis à ton voisin spécial. Et comme preuve, le fils aîné en Israël, on lui donnait un habit spécial, un habit multicolore qui le distinguait de tous les autres enfants. Des deux en Israël, le fils aîné jouait le rôle automatiquement du sacrificateur de la famille. C'était le représentant de Dieu dans la famille. Voilà pourquoi en Israël, quand on était fils aîné, directement on était consacré à Dieu, au service de Dieu. Et quand la famille ne voulait pas que tu sois consacré au service de Dieu, il payait un prix qu'on appelait le prix de rachat. Tous les fils aînés étaient consacrés à Dieu. C'était des représentants de Dieu au sein de la famille. Et la troisième des choses, c'est que le fils aîné, non seulement qu'il était spécial, représentant de Dieu, sacrificateur de la famille, mais de trois, à la mort de son père, il avait un grand morceau d'héritage. Si tous les enfants peuvent avoir des vaches, lui, il en avait trois, quatre, cinq, et voire même plus. Et c'est pourquoi même Jacob, quand il a vu Esaü, il s'est dit, il ne doit pas avoir ses droits de naissance. Un gros morceau, moi je dois récupérer ça. Ruben, non seulement qu'il était le fils aîné, la deuxième des choses, lorsque vous lisez ces passages de Genèse 49, vous remarquerez avec moi que Ruben, non seulement qu'il était l'aîné, mais il faisait aussi la joie et la fierté de ses parents. Il faisait la joie et la fierté de ses parents. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous mes enfants, et je vous dirai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et il commence au verset 3 par Ruben. Et écoutez comment Jacob est en train de parler à Ruben. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né. Et j'écris qu'il allait s'arrêter par là. Il ajoute, ma force est les prémices de ma vigueur. Puis il va encore plus loin, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Les commentateurs de la Bible disent que lorsque Jacob était en train de dire ces paroles, Ruben a appelé tous ses petits frères. Toi, Joseph, tu pensais que toi, tu étais malin. Regarde, papa dit que je suis supérieur en puissance et supérieur en dignité. Même papa reconnaît ma place. Pourquoi? Parce qu'il occupait une place spéciale. C'était un enfant chéri, un enfant aimé. Et lorsque vous lisez ces paroles, vous pouvez comprendre la place qu'il occupait dans le cœur de son père. Des belles paroles, des paroles qui montrent que sa destinée glorieuse, supérieure en puissance. Mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Quelqu'un a dit ceci. Il dit, Jacob, il ne parlait pas très souvent. Mais ce jour-là, il a même rimé, il a composé toute une poésie sur Ruben. Il commence par Ruben, il dit, tu es ma force. Les prémices de ma vigueur. C'est toi qui as fait ma fierté. Lorsque tu es venu au monde, tout le monde a su que je suis capable de donner un enfant supérieur en puissance et supérieur en dignité. Des paroles qui montrent la destinée de Jacob, de Ruben plutôt. Des paroles qui montrent sa gloire et la place qu'il occupe dans le cœur de son père. Mais une question que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce que Jacob va-t-il hériter de son droit d'aînesse? Est-ce que Jacob, malgré que papa dit de bonnes paroles, va-t-il avoir ce qui est dit par rapport à sa position? Il avait une position sociale qui lui permettait d'être fils aîné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être fils aîné et ne pas jouir des droits de fils aîné. Le fait d'être fils aîné n'est pas garanti, ne garantit rien. Qu'est-ce que je cherche à nous dire? Ce soir, j'aimerais parler à l'église et dire une grande vérité. Le plus important n'est pas la promesse que tu as de Dieu. Le plus important, c'est de jouir de cette promesse. Frères et sœurs, même si tu as la promesse de Dieu, tant qu'elle ne se réalise pas, elle ne te servira à rien. Les enfants d'Israël savaient que nous allons entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu peut promettre quelque chose, mais pour que cela se réalise, il faut que tu puisses jouer ton rôle en tant qu'enfant de Dieu. Il ne suffit pas de te contenter juste de la promesse, mais tu as une responsabilité, tu as un rôle à jouer. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons tout laissé à la responsabilité de Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité ce soir. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous êtes à mesure de faire. J'insiste. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous êtes à mesure de faire. Regardez avec moi. Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. Il y a quelque chose qui me tique là-bas. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et le verset 5 nous donne des explications. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun herbe des champs ne germait encore sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans la création. Et ce soir, je veux que quelqu'un me comprenne très bien. Dans la réalisation de la promesse, il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dis à ton voisin, la part de Dieu. Dis-lui encore, la part de l'homme aussi. Dieu crée la terre. Et la Bible dit, aucun arbuste n'existait sur la terre. Il n'y avait même pas d'herbe de champ. Et la Bible donne et détermine les responsabilités. La première responsabilité était de Dieu. Il fallait que Dieu fasse pleuvoir sur la terre. Mais le même Dieu devait créer l'homme. Et quand bien même Dieu créerait l'homme et faisait pleuvoir sur la terre, tant que l'homme ne cultivait pas la terre, il n'y aurait pas d'arbre. Aide-moi à dire à ton voisin, n'attends pas tout que Dieu le fasse. Dis-lui, n'attends pas que Dieu fasse tout pour toi. Dis-lui, tu as des choses à faire. Combien de fois nous sommes devenus paresseux? Vous allez m'excuser. Mais je vais vous dire une vérité. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses où vous devez agir. Le pays va mal parce que les chrétiens ne jouent pas leur rôle. La Bible dit ceci dans Psaume 11. Il dit, quand les fondements sont ébranlés, que feraient les justes? Quand les choses ne marchent pas, la Bible ne dit pas aux justes de rester croisés les bras. La Bible ne dit pas aux justes de regarder. Mais la Bible dit, les justes doivent faire quelque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois faire quelque chose. Dis-lui encore, tu dois faire quelque chose. Ruben a des belles promesses de la part de Dieu. Son père reconnaît même ces choses. Mais Ruben a un problème. Il ne jouira pas de son droit d'aînesse. Au verset 4, la Bible dit, impétué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Impétué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'un jour il est monté sur la couche de son père et il a souillé cette couche. En fait, Ruben, dans sa jeunesse, il a commis une erreur, une grosse erreur. Il a pris une des concubines de son père. Il est allé avec cette concubine. Je m'imagine quand il est allé avec cette concubine, tout le monde dans les quartiers l'a dit, voilà l'homme. Il partage une même femme avec son père. C'était un geste inaperçu. Et lorsque vous lisez la Bible, son père ne lui a jamais réprimandé. Il ne lui a jamais reproché. Il attendait ce jour-là pour lui dire, je dois sauver mon honneur. Et Jacob a dit, un tel irresponsable, quelqu'un qui est monté sur ma couche, ne mérite pas le droit d'aînesse. Un seul geste qu'il a posé l'a coûté cher. Lorsqu'il a fait ce geste, il a eu le plaisir. Les gens l'ont acclamé dans les quartiers. Et aujourd'hui, nous avons des rebelles dans cet endroit. Des hommes, quand ils font des choses, ils ont du plaisir. Ça leur fait du bien. Des fois même, les gens les acclament. Les gens disent, c'est là, c'est celui-là l'homme. C'est celui-là qui est clair. Frères et sœurs, ne pas être en Christ ne te donne pas la possibilité d'être clair. Le véritable Yuma, permettez-moi de le dire ainsi, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Que vous disiez amen ou pas, moi je prêche la parole de Dieu. Ce qui fait que nous soyons éclairés, c'est le fait d'avoir Jésus-Christ. Je suis fier de l'avoir dans ma vie. J'ai commencé à le servir à l'âge de 13 ans, mais je ne regrette jamais, jamais. J'ai servi ce Seigneur toute ma jeunesse et je suis fier de l'appartenir. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de connaître Jésus-Christ. Je ne vous prêche pas un Jésus que je ne connais pas. Je vous prêche un Jésus qui a changé ma vie. Je vous prêche un Jésus qui a transformé mon parcours. Un Jésus qui a apporté ce que mes parents ne pouvaient jamais me donner. Des rebelles. Paul dit ceci dans Galates 6, verset 7. C'est un avertissement qu'il donne. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il fera quoi? Il les moissonnera. Aide-moi à dire à ton voisin, tes actes sont des semences. Dis-lui encore, tes actes sont des semences. Et vous savez, lorsque vous semez une graine d'haricot ou de maïs, vous récoltez quoi? Une graine? Non. Lorsque vous semez une graine, vous récoltez un régime. C'est ça le principe. Je suis venu dire à quelqu'un, fais attention à tes actes. Je suis venu prévenir quelqu'un, fais attention aux choses que tu fais. Aujourd'hui, ça te donne du plaisir. Aujourd'hui, tu les fais, tout le monde t'acclame. Aujourd'hui, tu les fais, tout le monde dit, tu es branché. Mais j'aimerais dire, fais attention aux choses que tu fais. C'est vrai, tout le monde t'a dit tu es branché. C'est vrai, tout le monde t'a dit que tu es au top, à jour. J'aimerais te dire, comme les sages disent, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Mais n'oublie pas une chose, le Seigneur t'entend en jugement. Mon frère, ma soeur, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, chaque acte que tu poses aura des conséquences. Chaque fait, chaque geste que tu poses dans ta vie aura des conséquences. Et je Je suis venu t'appeler à ne pas poser de mauvais actes, à poser des actes qui vont sauver ta vie. Dans une des églises, quelque part, il y avait mariage. Et quand les mariés sont arrivés à la porte, celui qui était à la modération a dit, « Levez-vous, que le mariage soit honoré de tous. » Alors que tout le monde s'est levé, acclamé, chanté, dansant, la jeune fille, la mariée, a commencé à pleurer. S'il y a une fille à côté de toi ou une maman, demande-lui pourquoi le jour du mariage vous pleurez. Bon, c'est le 21e siècle, ne pleure plus. Et la jeune fille a commencé à pleurer, elle a pleuré quand elle est entrée dans l'église. Tout le monde a acclamé, tout le monde a dit, voilà la fille qui aime son mari. Voilà la fille qui attendait le jour de son mariage. Quand il est arrivé le moment de changer les vœux, elle n'a même pas si changé les vœux parce qu'elle pleurait comme un bébé, pleurait, pleurait. Et le pasteur a dit, est-ce qu'on peut encourager notre sœur par des acclamations? Elle a aimé ce mariage. Le mariage a pris fin. 3 mois plus tard, elle revient voir le pasteur. Et le pasteur qui l'accueille dit, ma fille, comment ça va? Comment va ton mari? Est-ce qu'il prend soin de toi? Il dit, oui, pasteur, il prend soin de moi, mais je viens te voir parce que j'ai un problème sérieux. Le pasteur lui dit, raconte ma fille. Il dit, pasteur, je viens te dire pourquoi le jour du mariage, j'ai pleuré. Et le pasteur qui dit, mais tu pleurais parce que tu avais la joie. Il dit, non, pasteur, c'était pas ça le cas. J'ai pleuré parce que je savais que je me marie, mais je ne pourrais jamais mettre au monde. Le pasteur qui avait une grosse Bible comme la mienne a commencé à ouvrir la Bible. Il a dit, ma fille, il est écrit dans la maison du Seigneur, il n'y aura pas de femme stérile ou celle qui avorte. Écoute, ma fille, Anne était stérile, Dieu lui a donné des enfants. Sarah était stérile, Dieu lui a donné des enfants. Et cette maman a dit, pasteur, arrête-toi, ce n'est pas mon cas. Et le pasteur a dit, raconte alors. Elle a dit, pasteur, à l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte. Et pendant que je suis tombée enceinte, je savais que mon père était sévère. Je savais que si papa apprenait que je suis enceinte, c'est fini pour moi. Je vis une de mes amies. Je lui ai dit, si papa apprenait que je suis enceinte, tout est fini pour moi. Son ami l'a regardé, lui a dit, tu es human. Au 21e siècle, vraiment, tu peux tomber enceinte. Non, je vais te montrer une solution. Cette fille a pris la sœur et l'a amenée dans un centre quelque part. On a pratiqué l'avortement. C'était inaperçu. C'était resté un secret entre elle, la fille et Dieu. Bien sûr aussi les diables et les démons. À 18 ans, elle retombe encore enceinte. Elle s'est dit, cette fois-là, je n'ai pas besoin de mon ami, je connais moi-même l'adresse. Elle est partie, elle a avorté. À 19 ans, elle retombe encore enceinte. Elle voit encore le médecin, elle avorte. À 20 ans, c'était devenu une pratique, ça entrait, ça sortait. Elle-même dira, à 20 ans, elle ne sait pas si elle a avorté combien des fois, parce qu'elle commençait maintenant, lorsque ça entre, elle avorte. À 21 ans, elle revient auprès du même médecin. Le médecin qui la regarde et qui lui dit, je te donne un conseil, n'avorte pas. Parce que si tu avortes, tu n'auras plus d'enfant. Elle a pris la parole, elle a dit au médecin, enlève-moi cette chose, est-ce que tu ne vois pas ma beauté? Une fille comme moi, avoir une chose comme cela. Et il a ajouté, d'ailleurs aujourd'hui je te donne les triples de l'argent que je t'ai toujours donné. Le médecin a fait son travail. C'était passé inaperçu. 2 ans plus tard, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a commencé à chanter dans la chorale. Elle avait une très belle voix. Un frère de l'église qui a entendu « Alléluia, Hosanna, Alléluia ». Il s'est dit « Voilà la femme ! » J'aimerais dire aux jeunes gens, n'épousez jamais quelqu'un parce qu'elle chante bien. Jeune frère, vous êtes là. J'ai dit, n'épousez jamais quelqu'un parce qu'il chante. Hein? Elle peut être bon chanteur, mais mauvaise femme. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Les jeunes filles n'aimaient pas un homme parce qu'il prêche. Quelqu'un peut être un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Est-ce que je peux insister? Cette histoire s'est passée à Kinshasa. Alors qu'un jour, le pasteur est en train de prêcher, il prêche. Et quelques temps plus tard, on voit maman pasteur à venir avec des casseroles, avec des matelas. Et la diaconie se pose, est-ce qu'il y a une retraite? Maman pasteur dit, non, il n'y a pas de retraite. Il dit, cet homme-là, quand il prêche à la chair, c'est un bon mari. Quand il est à la chair, il est gentil. Alors je préfère venir amener tout ici à la chair. Parce que je ne le vois sourire que quand il est à la chair. Et nous avons des hommes comme ça. Il sourit seulement quand il est avec les autres. Mais quand il entre à la maison, chien méchant, frère, change de vie. Vous voyez, il n'y a plus d'amen, hein? Les hommes, quand ils sont avec les autres, quand ils regardent les matchs là-bas, oh, ils sautent! Mais jamais il ne peut pas sauter devant sa femme. Ce garçon a aimé cette fille. Il a épousé, il a doté. Et le jour du mariage est arrivé. Quand le jour du mariage est arrivé, lorsque la fille est arrivée devant la porte, elle s'est souvenue des paroles de son médecin qui lui a dit, si tu avortes aujourd'hui, tu n'auras plus d'enfant. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à pleurer. Et ce jour, quand elle était au bureau du pasteur, c'était pour dire au pasteur, je viens à peine. Quand je suis entré dans les mariages, le premier jour, j'ai conçu. Et 3 mois plus tard, c'est sorti de soi. Et je viens de voir mon médecin. Mon médecin m'a dit une chose. Tellement que tu as été habitué à l'avortement, le corps s'est habitué qu'après 3 mois, ça doit sortir. Toi, tu n'as plus besoin d'un médecin. Chaque fois que ça entrera, ça sortira aussi. Frères et sœurs, je révis cette femme. Si vous entrez dans son église, vous êtes prédicateur, la première requête qu'elle vous amènera, priez pour moi que j'aie un enfant. Elle est allée dans tous les pays européens. Elle a circulé le monde entier. On lui a donné toutes les stratégies, les pieds en haut, les pieds en bas. Mais chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse sort. La dernière fois que je l'ai revue, il y a 7 ans. Elle me disait, Benjamin, il ne reste que 2 ans pour que j'aie la ménopause. Son mari lui donne tout. Elle a l'argent, elle a des maisons, mais elle ne fait que maigrir. Pourquoi? Parce qu'elle a posé des actes qui lui ont coûté cher. J'aimerais dire à l'église, Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences restent. J'insiste, Dieu pardonne le péché, mais les conséquences restent. Ce soir, je suis venu dire et donner un avertissement à ce jeune homme qui joue avec le péché, à ce papa qui joue avec le péché, à cette maman qui pose des actes et se dit, personne ne me voit. Quand nous la voyons ici à l'église, on dit « elle est sainte ». Quand nous la voyons, on dit « elle est chrétienne ». Frère, ma soeur, cieux, te vois. Arrête avant qu'il ne soit tard. Ce soir, je suis venu inviter quelqu'un à donner sa vie au Seigneur. Car c'est le seul acte qui peut sauver toute ta vie et changer ton parcours. Que des religieux dans nos églises, des hommes qui viennent à l'église mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Des hommes qui s'assoient, ils disent, c'est des cas, c'est mon arrière-grand-père qui a construit l'église. Je me retire aux enfants, votre père peut être sauvé, mais si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est pas parce que votre père est révérend pasteur que vous êtes sauvé. Donnez votre vie à Jésus. Arrêtez avec ce que vous faites dans le noir, dans la cachette. Je vous pose une question. Quand vous êtes seul, là où personne ne vous voit pas, qu'est-ce que vous faites? Que des gens qui sont chrétiens, quand on les voit, quand ils voient pasteur chrétien. Mais lorsque tu es seul au quartier, là où tout le monde ne te connaît pas, es-tu toujours chrétien? Aujourd'hui, nous avons des ribaines dans nos églises. Des hommes sur qui il y a de belles promesses, un bel avenir, mais qui ne pourront jamais hériter cet avenir à cause des actes qu'ils posent. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à voler. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à tricher. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à se masturber. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à mentir. Ils viennent à l'église, mais ils font de mauvaises choses dans la cachette. Et quand ils sont avec nous, ils nous montrent qu'ils sont saints. Ce soir, il est temps que tu poses un acte décisif, un acte important, celui de donner ta vie à Jésus, celui d'abandonner avec ces choses. Celui de te décider de suivre Jésus et rien que Jésus. Arrête de tâtonner. J'aimerais me tenir comme Élie et dire jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Vous êtes dans Sébéka, mais vous continuez avec la musique profane. Vous êtes dans Sébéka, mais vous continuez avec l'impudicité. Vous êtes dans Sébéka, mais vous continuez avec le mal. La parole de Dieu est adressée à toi. Abandonne! J'aimerais m'arrêter par là ce soir. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes en prière? Quelqu'un peut prier et dire, Seigneur, je n'aimerais pas être ribène de ma génération. Je n'aimerais pas être cet homme à qui on dit de belles paroles, de bonnes paroles, mais qui un jour sera condamné. Un jour, il n'héritera pas de ce que Dieu a décidé et dit sur sa vie. J'aimerais que nous puissions nous tenir tous debout là où nous sommes. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, Seigneur, je ne veux pas être ribène. Je ne veux pas être ribène qui, à cause d'un seul acte, puisse gâcher sa vie. J'aimerais même les parents qui sont là, les responsables, les leaders, que vous puissiez prier en tant que parents et dire, Seigneur, ne permets pas par mes actes que mes enfants puissent souffrir. Ne permets pas par mes actes que ma famille puisse souffrir. Est-ce que quelqu'un peut entrer en prière et dire, Seigneur, je ne veux pas être rebelle. Je veux être un homme qui pose des gestes et des gestes qui sauvent toute la famille, qui sauvent tout le monde. Prions le Seigneur, parlez à Dieu là où vous êtes. Dites à Dieu, aide-nous, aide-nous. Et au moment où nous sommes en train de prier, si ce soir le Seigneur t'a parlé et que tu es convaincu que c'est ton message, avance seulement ici devant, je vais prier avec toi, même s'il plaît. Avance, je vais prier avec toi. Ce soir le Seigneur t'a parlé parce que tu es conscient des actes que tu poses. En cachette, quand personne ne te voit. Ces choses que tu fais, là où personne n'y est, là où il n'y a pas de pasteur, là où il n'y a pas d'église. Si tu es là, avance, je vais prier avec toi. Et depuis un temps, tu as peur à cause de ce que tu as eu à faire. dans le passé. Avance, je vais prier avec toi. Ce message a été pour toi. Gagnons vite le temps, s'il vous plaît, avant qu'il ne pleuve. Si Dieu vous a parlé ce soir, avancez, je vais prier avec vous. Je dis, si Dieu vous a parlé ce soir, avancez, je vais prier avec vous. S'il vous plaît, nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. Merci, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci, ma sœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, prédicateur, je ne sais pas comment sera mon avenir, parce que j'ai fait tellement de choses mauvaises que je me demande, j'ai même peur. Avance, je vais prier avec toi. Tu es jeune, mais tu te masturbes encore. Avance, je vais prier avec toi. Tu fais des actes que même tes parents ne peuvent pas s'imaginer. Avance, je vais prier avec toi. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés. J'attends encore quelques personnes qui doivent avancer. Et particulièrement dans la chorale, j'en ai vu plusieurs. Alors que j'ai pressé ce message, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui devaient avancer en venant de la chorale. Parce que lorsque je parle de ces choses, et même ça, de quoi il s'agit. Je vous attends, mon frère. Je vous attends, ma soeur. Je vous attends, bien-aimé. J'aimerais que les parents prient ce soir et qu'ils disent, Seigneur, aide-nous à préparer l'héritage pour nos enfants. Aide-nous que lorsque nous allons mourir, que nous ne puissions pas léguer des problèmes à nos enfants. Seigneur, aide-moi à préparer un bon héritage pour mes enfants. Je vais inviter les pasteurs de l'église pour venir prier pour les bien-aimés qui sont ici devant. Mais avant que les pasteurs ne prient, si vous sentez dans vos cœurs que vous deviez avancer, avance. Je vais inviter les pasteurs pour prier pour ceux qui sont ici devant. Ceux qui sont ici devant, élevez vos mains en l'air. Et les parents qui étaient là derrière, commencez à demander à Dieu, dis Seigneur, je veux être un père responsable, une mère responsable. Aide-moi Jésus à ne pas léguer des problèmes à mes enfants. Aide-moi à assumer et à jouer mon rôle en tant que parent.
Seigneur, tu es ici présent. Nous avons senti ta présence et nous te bénissons pour ces bien-aimés qui ont eu le courage de venir ici devant toi, s'approchant du trône de la grâce, parce que c'est là qu'ils peuvent obtenir le secours pour tous les besoins qu'ils ressentent dans leur cœur, mais aussi pour ceux qu'ils ont fait, ceux qui reconnaissent devant toi et qui voudraient complètement abandonner. Nous voulons les confier à toi, Seigneur, et nous voulons que ton Esprit Saint soit à l'œuvre au plus profond de leur cœur, afin que cet engagement ait des conséquences incalculables dans l'histoire de leur vie, et qu'il soit possible, Seigneur, qu'ils se souviennent, chacun en ce qui les concerne, de ces jours-ci, de cet engagement qu'ils ont pris, de te recevoir, ô Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, d'accepter d'abandonner les mauvaises voies sur lesquelles ils ont marché jusqu'ici, et de marcher sur les chemins de la vie, celui que tu as inauguré par l'œuvre de la croix. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les laver par le sang de la croix, que tu puisses les purifier de tous leurs péchés, dans leur cœur, au plus profond de leur être profond, Seigneur. Nous prions que tu aies encore la grâce de saisir cette opportunité, cette main que tu leur as tendue depuis toujours. Mais, ô Dieu, qu'ils saisissent ce jour pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle aventure avec toi. Que celle-ci soit une vie prometteuse, par laquelle ils constateront que tu les changes, tu les transformes, tu leur accordes une nouvelle orientation, une valeur, une nouvelle manière de voir les choses et de vivre pour toi et pour toi seul. Bénis-les, Seigneur, et soutiens-les, et permets que cet engagement soit un engagement pour la vie. Nous prions que ton Esprit Saint continue à agir dans leur cœur pour les aider, Seigneur, à comprendre les conséquences réelles de cet acte qu'ils viennent de poser ce soir. Il y en a qui auraient voulu le faire, mais ils ont eu honte. Ta parole nous dit que ceux qui auront honte de toi et de ta parole, toi tu les réuniras devant ton Père dans les cieux. Mais pardonne-les, Seigneur, accorde la grâce de saisir aussi cette opportunité pour venir à toi, tels qu'ils sont, malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils ont vécu, pour reconnaître en toi leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que nous prions pour ta gloire au Jésus. Amen.